réplique, trouble dans l'identité avec Paul Audy. Le dernier livre du philosophe Paul Audy, Troublante identité, aurait pu s'intituler « Le problème avec moi ». L'auteur prend à rebrousse-poil notre époque emplie par le vacarme des revendications identitaires. Né au Liban, ayant vécu jusqu'à l'adolescence, il rejette fermement, véhémentement, l'identité que son origine lui assigne. « Le Liban me fait honte », écrit-il sans embâge. Or, à l'observateur extérieur, le Liban apparaît plutôt comme un pays qui souffre que comme un pays qui fait souffrir. Ce n'est pas un empire, il n'a pas d'ambition territoriale, l'islam n'y règne pas en maître absolu, ce n'est pas non plus une dictature. Son multiculturalisme, certes fragile et problématique, paraît plus aimable à tout prendre que l'étouffante homogénéité qui sévit alentour. Bref, on a plus envie de plaindre le Liban pour sa faiblesse et ses tourments que de le fustiger pour ses penchants tyranniques. Alors, pourquoi ce sentiment, Paul Audy ? Pourquoi cette honte ? Pourquoi cette rage ? Sont-elles purement idiosyncrasiques ou ont-elles des causes objectives ?
Alors, j'ai écrit ce livre, je tiens à le dire d'emblée parce que votre introduction et votre question orientent le livre vers la question libanaise. Ce n'est pas tout à fait un livre sur le Liban. En fait, c'est un livre sur moi et c'est un livre sur la difficulté que l'on peut ressentir quand on est naturalisé, je l'ai été à l'âge de 12 ans, à devoir concilier des identités différentes, multiples, mais aussi largement contradictoires. Et en ce sens-là, j'ai essayé d'analyser quel était le ressort de mon tourment. Et je n'ai trouvé d'abord qu'un seul mot pour expliquer cela, c'est le mot de honte que vous avez relevé. Il y a une analyse de la honte, mais qui est l'analyse d'un sentiment, d'un phénomène qui advient lorsque, précisément dans mon cas, on me ramène à quelque chose que je sens parfaitement étranger. Comme si, finalement, on cherchait à m'identifier à quelque chose que je n'étais pas. Et c'est en ce sens-là que le fait de devoir assumer le destin d'une communauté qui n'est pas la mienne m'a rempli de honte pendant longtemps. Alors c'est vrai, vous avez raison de dire que le Liban est un pays qui mérite la compassion. Mais il faut aussi se dire une chose, c'est qu'un pays suit le destin de la population qui est la sienne. Que la population qui est la sienne voudrait lui donner. Je ne suis pas de ceux qui, contrairement à nombre de Libanais, estiment que les malheurs du Liban lui viennent de l'extérieur. Je pense que les Libanais eux-mêmes sont responsables de ce qui leur arrive. Et que s'ils étaient un tout petit peu plus soucieux de cultiver leur liberté, eh bien, on n'en serait pas là. On n'en serait pas à constater une destruction quasi totale d'un pays qui a un peu moins de 100 ans.
En effet, c'est pas un livre sur le Liban, mais vous êtes très sévère avec cette population, avec cette nation. Vous dites que c'est une société qui n'est jamais arrivée à sortir de la violence intestine et de la catastrophe endémique. Justement, le Liban est incapable de faire société, de vivre ensemble, notamment parce que on y est défini d'abord comme un maronite, un chiite, un sunnite, un druze, un grec catholique, un grec orthodoxe, un juif, un protestant. Peut-être je ne suis pas allé jusqu'au bout de toutes les identités, ce qui rend impossible l'apparition d'une véritable communauté nationale et que ces différentes identités ou communautés ont tendance à reporter les problèmes du Liban sur les autres, que ce soit les autres communautés ou, vous le dites aussi, l'autre que représente dans cette partie du monde Israël. Et c'est cela que vous supportez très mal, si je vous ai bien compris, Paul Audi.
On ne s'unit jamais aussi bien que face à un ennemi. Comme il y a un ennemi pour eux tout trouvé, il est évident que sur ce plan-là, au moins, ils sont tous d'accord. Mais pour tout le reste, ils ne sont jamais d'accord. Moi, je n'ai jamais vécu au Liban. J'y vais de temps en temps pour des raisons qui sont liées à ma vie familiale. J'y vais de temps en temps et à chaque fois, je ressens le même malaise. C'est-à-dire cette manière, finalement, de croire à la possibilité d'une équation qui, dès le départ, est une équation trompeuse et même fallacieuse. On veut faire cohabiter des groupes de populations qui ont des intérêts manifestement divergents. C'est extrêmement difficile à faire. Pour que cela puisse se faire, il faut que le jeu démocratique s'applique totalement. C'est la seule condition pour que ça puisse fonctionner. C'est-à-dire que l'on accepte que il puisse y avoir alternance au pouvoir, changement de régime, distinction entre les pouvoirs. Et tous ces éléments constitutifs de la démocratie sont tous attaqués au Liban dès l'origine. Tout fonctionne mal. Alors effectivement, il y a comme un écran de fumée. On peut dire que c'est une démocratie plutôt vivace dans la région. Mais en fait, quand on regarde de près, on s'aperçoit que c'est devenu un état policier, que l'on ne peut pas faire ce qu'on veut, que l'on ne peut pas dire ce qu'on veut. Les journalistes sont assassinés. Les assassinats politiques, on en a entendu parler ici, sont récurrents. Et surtout, la justice ne fonctionne pas. Donc, dans un pays où la justice est accaparée par des groupuscules armés qui ont le pouvoir et qui dominent l'État, qui en quelque sorte jouent le rôle de la machine de guerre au sens de Deleuze, on ne peut pas parler d'une démocratie pleine et entière. À ce titre-là, la coexistence des appartenances et des identités prend un autre tour qu'ailleurs. Pour que des identités puissent coexister, il faut absolument que le pacte soit un pacte démocratique dans toute sa transparence.
Et il ne l'est pas depuis le début, l'indépendance 1943.
Il ne l'est pas depuis le début. Pendant un certain nombre d'années, sans doute, je ne suis pas un grand spécialiste de l'histoire du Liban, loin de là, mais je peux dire qu'il y a eu comme une forme d'illusion. On a fondé une république. Et le terme de république implique quand même d'appliquer un certain nombre de codes, une sorte de discipline citoyenne qui n'a pas été honorée, qui n'a pas été exercée. Et donc à partir de là, si vous voulez, très vite, les choses ont dégénéré.
Donc il faudrait décommunautariser la société libanaise, que
je
les citoyens...
Je ne crois pas.
Non, vous ne pensez pas
ça. Non, parce que je crois que l'ADN de ce pays, c'est justement cette mosaïque de communautés. C'est absolument impossible d'imaginer que par un coup de baguette magique, le maronite va oublier d'être maronite, le chiite va oublier d'être chiite. C'est une aberration, je pense. Si le Liban a une raison d'être, c'est précisément pour exercer cette équation. Or, les conditions d'exercice de l'équation, c'est-à-dire une fausse république et une démocratie tronquée, ne permettent pas à cette équation de s'exercer pleinement.
Voilà les raisons pour lesquelles le Liban vous agace et même vous fait honte. Nous y reviendrons. Oui, pardon.
Je pourrais peut-être ajouter un mot sur justement cette honte. Cette honte, en fait, elle m'est arrivée précisément parce que j'ai intériorisé une valeur à l'âge de sans doute 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui a pris une importance capitale dans ma psyché, si vous voulez. Elle me constitue. C'est la valeur de liberté. Et en fonction de la valeur de liberté, le prisme que cette valeur permet d'appliquer à une réalité politique, je juge la réalité politique libanaise de manière très sévère. C'est uniquement au fond parce que je suis devenu français, voilà, et que je regarde le Liban en français que la honte est arrivée. Mmh. Mais cette honte est arrivée parce que je n'ai pas voulu longtemps, sans doute à cause de mécanismes inconscients, je n'ai pas voulu assumer le fait que j'avais un passé. Je voulais faire table rase de ce passé parce que la table rase de ce passé était pour moi une garantie de sécurité. J'avais besoin, pour justement embrasser une identité nouvelle, j'avais besoin que toute autre identité ne lui fasse pas de l'ombre. Et lorsqu'on me ramenait à cela, j'avais un sentiment d'être pris au piège de quelque chose que je ne voulais pas.
Oui, alors, vous avez donc choisi une autre identité à partir du moment où vous avez émigré vers la France. Vous êtes naturalisé et vous aimez la France. Et c'est très intéressant. Le Liban vous fait honte, vous écartez cette assignation à l'origine. Vous choisissez autre chose.
Non, je dirais qu'il me fait honte en proportion précisément du choix d'autre chose.
D'accord. Alors, Alors, cette autre chose, vous en parlez dans votre livre et j'aimerais que nous nous y attardions un peu. Donc, ma question, ce sera, par quoi êtes-vous français? On peut être français par Matisse, par Vuillard et Valoton, par Marivaux, par une littérature qui, comme le disait Albert Thibaudet, vit sous la loi du couple. Montaigne et Pascal, Bossuet, Fénelon, Corneille, Racine, Voltaire et Rousseau, ça va jusqu'à Sartre et Camus d'ailleurs. On peut être français par les Trois Mousquetaires, par la variété des fromages, par les châteaux de la Loire, ou comme ma mère, née à Lvov, Lviv aujourd'hui, par la place de la Concorde. Elle ne pouvait pas traverser en voiture la place de la Concorde sans crier d'enthousiasme et d'admiration. Et vous, donc, Polody, par quoi êtes-vous français?
Alors, pour répondre à cette question qui occupe les deux tiers de ce livre, je voudrais partir d'un exemple que je donne, qui est cette séquence du film Ali de Michael Mann, qui montre comment Ali, Mohamed Ali, le boxeur, quand il est arrivé en Afrique, il était américain. Il n'avait jamais mis les pieds en Afrique. Il avait déjà pris une décision très importante qui était de changer de nom, d'embrasser la religion islamique, mais il ne voulait plus porter son nom d'esclave. À partir de là, on lui propose ce match retentissant à Kinshasa. Et le film réserve une séquence tout à fait extraordinaire à la révélation de l'africanité de Ali. Ali court dans les rues de Kinshasa et il prend en quelque sorte conscience que ce monde l'appelle, qu'il est en quelque sorte sollicité par lui et qu'en étant sollicité par lui, il y a comme un effet de miroir qui va se produire et il va se reconnaître dans le miroir de l'Afrique et va même, en raison du match, s'emparer d'une sorte de mission qu'il entend sans l'entendre, mais qu'il assume d'être le représentant d'une victoire éclatante à venir pour la race noire. Et à ce titre-là, si vous voulez, la séquence prouve une chose, c'est que l'identité qu'on a est une identité que l'on reçoit et que l'on reçoit et que l'on reconnaît. En quelque sorte, il n'y a pas d'identité qui ne soit pas désignée et il n'y a pas de désignation qui ne renvoie pas à une assignation. C'est ce processus-là que j'ai rencontré lorsque j'ai eu 10 ans. Lorsque je suis arrivé en France pour la première fois, j'avais 8 ans d'abord. Bon, j'y passais 3 mois par an. Mais déjà, lorsque je suis arrivé, c'est exactement comme à Lima dans les rues de Kinshasa. Je me suis reconnu comme appartenant à ce pays avant même de m'y installer. C'est un mystère, c'est une énigme, c'est très particulier. C'est quelque chose qui venait de très loin, très probablement du désir affiché de ma mère, mais il se trouve que ça s'est passé comme ça. Et que je n'ai pas tellement choisi la France. Je pense que j'ai été choisi par elle, parce que tout s'est passé dans une sorte de rapport passif-actif, si vous voulez. J'ai dû faire avec quelque chose qui était moi et que j'ignorais être moi.
Oui, mais alors ce quelque chose, vous en donnez des exemples oui. concrets.
Oui.
Vous êtes français, si j'ai bien compris, par le Tour de France. Vous êtes français par la figure extraordinaire d'Alain Delon. Vous êtes français par le film L'Armée des Ombres. Tout cela vous a beaucoup marqué.
Énormément.
Alors, dites-en marqué. Dites-en un peu plus.
Alors, ce que je peux dire, si vous voulez, d'abord, c'est que, pour répondre à votre question antérieure, je suis d'abord français, et je le dis toujours comme ça, je suis français par le nom du pays. Alors, le nom du pays, c'est quelque chose de très important. Il ne suffit pas d'être proustien, si vous voulez, pour comprendre l'importance de cette notion nom de pays. Mais la France a quand même un nom exceptionnel. C'est un nom qui signifie liberté.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Et cette signification, si vous voulez, du nom est quelque chose qui m'a immédiatement frappé lorsque je l'ai comprise. Je me suis senti en quelque sorte adhérer pleinement à ce territoire spirituel qui s'ouvrait à moi. L'esprit français et l'esprit de la liberté, mon rousseauisme, si vous voulez, presque congénital, m'a amené à ajouter à cet esprit de liberté l'esprit d'égalité. Mais quand même, si vous voulez, la France est un appel à la liberté à tous les niveaux, qu'elle soit morale, politique, individuelle, privée, dans tous les niveaux qu'une existence humaine peut traverser, la liberté doit être présente. C'est en ce sens-là que je me sentais français d'emblée. Alors ensuite, cette liberté, elle s'est incarnée.
Elle
s'est incarnée dans un certain nombre de personnes et d'œuvres, dans des lieux. Mais je dirais que effectivement, pour que je puisse faire comprendre quel était mon rapport viscéral à la France, il me fallait montrer quelques figures. Alors effectivement, je raconte aussi que lorsque j'étais encore au Liban et que j'étais au lycée français, j'ai appris, et je le lisais même à la maison très souvent, L'expiation de Victor Hugo. Bon, c'est un poème que j'aime énormément. Et dans ce poème-là, si vous voulez, je me suis retrouvé à me passionner pour la Grande Armée. Alors pourquoi un petit Libanais qui n'avait pratiquement jamais mis les pieds en France, qui entendait sa mère lui dire, comme la mère de Romain Gary a dit à Romain Gary, tu seras ambassadeur de France. Moi, j'ai entendu ma mère dire, un jour, vous aurez un destin français. Donc, à ce titre-là, je me suis intéressé aux batailles militaires françaises. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Ça s'est passé comme ça. Je me suis reconnu comme appartenant à cette histoire épique, héroïque, catastrophique, enfin, ce que vous voulez. Mais enfin, pour moi, c'était très important. Lorsque j'ai vu L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville, je l'ai vu 4 fois à l'âge de 9 ans. Ça a été pour moi une révélation extraordinaire. Je me sentais partie prenante. Je pensais que j'étais même d'une lignée de résistance. C'est-à-dire que tout mon imaginaire, si vous voulez, c'est reconfigurer à partir de ce que j'éprouvais comme émotion à ce moment-là.
Oui, c'est un film de Jean-Pierre Melville, d'après Joseph Kessel, sur l'épopée de la résistance. C'était en effet un film absolument bouleversant avec Lino Ventura et Simone Signoret, qu'ils sont obligés, les résistants sont obligés de liquider parce que, voilà, elle est devenue dangereuse et c'est un film absolument extraordinaire. Mais alors pourquoi Alain Delon?
Alors Alain Delon, bon écoutez, d'abord Alain Delon, moi je n'ai jamais compris ceux qui ne l'aimaient pas, je vous le dis d'emblée, Alain Delon c'est absolument sidérant, c'est une figure sidérante. Je vais vous dire, il y a des acteurs qui sont d'admirables acteurs, et puis il y a des acteurs d'apparition. Il y a une phénoménologie Alain Delon, si vous voulez. Lorsque Alain Delon apparaît, il se passe quelque chose. Une sorte de reconfiguration de l'atmosphère tout entière. Parce qu'il concentre en lui des contradictoires et qu'il les concentre de manière extraordinairement harmonieuse. C'est tout à fait extraordinaire. Il est capable d'être d'un raffinement extrême et c'est un sauvage en même temps. Il peut être très inquiétant et parfaitement rassurant. Et donc il condense, si vous voulez, à mes yeux, de naturaliser, il condense ce que je voulais que la France demeure à mes yeux.
Voilà. Alors, bon, l'est-elle restée? Nous verrons cela. Mais d'un autre côté, dans votre livre, Paul Audin, vous dites « J'interprète n'importe quel « nous » comme un signe de re-territorialisation, de ré-enracinement, d'enfermement, de captation d'héritage, de coagulation sociale. Vous vous élevez contre toute forme de repli identitaire. Vous vous inquiétez de certaines tendances en France à flatter l'identité nationale. Et d'où vous vient cette inquiétude, et n'est-ce pas contradictoire que d'aimer la francité et en même temps de repousser l'identité?
Bon, alors vous avez déjà bien compris que je n'ai rien contre les contradictions.
Bon, mais d'accord. Bon,
non, mais je n'ai rien contre les contradictions, au sens où je suis bien conscient, lorsque je le dis, qu'il y a quelque chose qui ne peut pas paraître tout à fait logique dans mon propos. Néanmoins, j'oppose de manière, je dirais, structurante pour moi-même, à titre existentiel, la relation que je peux avoir à une histoire, donc à quelque chose de déjà passé, de quelque chose qui est sédimenté, de quelque chose qui nécessite une interprétation et un positionnement, j'oppose ce rapport à l'histoire à un appétit de devenir, une sorte de transformation ou de métamorphose de soi-même. Et dans le « nous », si vous voulez, ou dans le rattachement du « moi » au « nous », je vois comme une sorte de fidélité à une histoire dont le « pendant » est une trahison du « devenir ». Donc c'est en ce sens-là que je me méfie de tous les « nous » à titre existentiel. Je ne nie pas l'existence d'un nous, mais quand il s'agit, si vous voulez, de moi et de mon appel et de mon désir de liberté, je me jette dans les bras d'un devenir dont je ne sais rien, qui est l'inconnu pour moi et qui, en quelque sorte, va m'amener à embrasser une forme d'altérité, ce que j'appelle l'autre en soi. Et j'attends toujours cette rencontre.
Alors, c'est très intéressant, parce que il y a en France, précisément, une inquiétude pour le maintien, la survie de l'identité, pour ce devenir dont vous parlez, Paul Audin. Beaucoup de Français se demandent si la France pourra rester la France. Vous citez Simone Veil, oui. à plusieurs reprises dans votre livre, L'Enracinement de Simone Veil est pour moi un livre très important, c'est une lecture de chevet même. Elle dit ceci notamment, elle parle d'un patriotisme de compassion, tendresse pour une chose belle, précieuse et périssable, mais c'est extraordinaire. La compassion pour la fragilité est toujours liée à l'amour pour la véritable beauté, parce que nous sentons vivement que les choses vraiment belles devraient être assurées d'une existence éternelle et ne le sont pas. Et on peut se poser la question pour la France. La langue française, par exemple, Barthes en parle dans son dernier séminaire. Hein. Il cite Flaubert, la préparation du roman. J'écris pour tous les lecteurs qui se présenteront, j'écris pas pour les lecteurs d'aujourd'hui, j'écris pour tous les lecteurs qui se présenteront, tant que la langue vivra. Tant que la langue vivra. Donc, il n'a pas une confiance absolue dans la postérité, comme pouvait l'avoir encore Diderot. Il se dit peut-être que la langue vivra, et Barthes dit... Elle est en train de mourir. La langue française peut mourir. La nation peut mourir. Et c'est là que j'en reviens au Liban.
Oui.
J'ai rencontré des Libanais qui me disent, nous sommes venus en France et nous voyons la France se libaniser. C'est des Français qui me l'ont dit avant que ce soit un thème de campagne électorale. C'est des Libanais qui me l'ont dit. Mmh. Et qui le dit d'une certaine manière? C'est aussi Elisabeth Badinter, dans la préface au deuxième grand livre dirigé par Georges Bensoussan, il y avait eu Les territoires perdus de la République, il y a eu une France soumise. Et elle dit, ce qui n'était que vaguelette il y a 25 ans s'est transformé en lame de fond. Une seconde société tente de s'imposer insidieusement au sein de notre République, tournant le dos à celle-ci, visant explicitement le séparatisme, voire la sécession. Une fragmentation française. Et François Hollande se demandait, vous le savez dans ce livre, si on n'allait pas vers la partition. Donc, voilà, si la France... se fragmente, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas un devenir Liban de la France? Et à ce moment-là, l'inquiétude identitaire n'a-t-elle pas quelque chose d'absolument légitime, Paul Audit?
En même temps, si l'inquiétude identitaire est la condition du remède, je pense que elle est aussi la condition du poison. C'est-à-dire que c'est ça qui est terrible. Oui, ce qui est terrible dans ces histoires, c'est que, si vous voulez, la fragmentation, elle vient aussi d'une revendication identitaire.
Mais c'est pas l'identité nationale. Non, c'est justement l'identité communautaire.
Bien sûr.
C'est ça qui est très intéressant.
Bien sûr.
Donc c'est pas la même chose. C'est cette identité communautaire qui a empêché le Liban de faire nation.
Oui.
Paul Audit.
Oui. Alors, ça c'est absolument certain. Mais dans le cas de la France, ce qui a permis à la France de faire nation, c'est quand même l'aspiration à l'universalité hors de tout particularisme. La grande fonction nationale, c'est la machine à créer de l'universel. Et c'est cette machine qui semble en panne aujourd'hui. C'est celle-là qui fait que l'inquiétude monte. C'est que c'est cette destruction, si vous voulez, de la valeur universalité. Donc c'est ça pour moi ce qui me remplit d'inquiétude. Je crois que la France de toute façon sera passablement bien armée pour résister à cette fragmentation. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout à l'effectivité de la libanisation entre guillemets de la France. Ça, je n'y crois pas. On peut s'en inquiéter, mais le peu de prophétisme que j'ai en moi, si vous voulez, me pousse à croire que ça n'aura pas vraiment lieu. Mais en même temps, je suis très 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 inquiet lorsque on va opposer une identité nationale à des identités particulières. Je suis inquiet de ça. Parce qu'au fond, ce qui triomphe, c'est le principe identitaire, dans les deux cas. Et le principe identitaire est pour moi le grand malheur humain. L'homme ne peut pas faire sans avoir une identité, mais alors, je crois que le monde aurait été bien mieux, bien meilleur, bien plus souriant, bien plus harmonieux, si justement il pouvait s'en débarrasser. Alors au nom de quoi ? Au nom de quoi ? Comment est-ce qu'on peut secondariser l'identité ? Je crois que la seule réponse à cette question, qui m'a beaucoup tourmenté en tant que philosophe, c'est qu'on peut secondariser l'identité dont on ne peut pas se passer par la conquête d'une singularité. Et la singularité, ce n'est pas l'identité, c'est tout autre chose.
Alors, la singularité, c'est tout autre chose. Mais vous dites, le monde serait plus heureux si on se débarrassait de l'identité. On dit aussi souvent en France que l'identité nationale...
Du principe identitaire.
Oui. Que l'identité nationale réveille de mauvais souvenirs et réveille aussi les vieux démons. Et là-dessus, je m'interroge. Alors, je cite une nouvelle fois Simone Veil, parce que vous vous définissez vous-même comme une âme déterritorialisée. Et elle dit, dans ce livre extraordinaire, l'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivant certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. Et le titre « L'enracinement » a été choisi par Albert Camus. C'est très intéressant parce que c'est Camus, c'est pas Barrès. Barrès a donné à l'enracinement une signification qui légitimement nous fait peur. Et avec Simone Veil, on en trouve un autre sens. Et elle écrit ce texte-là à la fin de sa courte vie, à Londres, 1942, la résistance, justement, l'armée des ombres. Et si on en revient au passé, justement, à cette époque-là, eh bien, Simone Veil encore dit, la France n'avait pas autre chose que la France à qui être fidèle, et quand les Français n'avaient pas autre chose que la France à qui être fidèle, et quand ils l'abandonnèrent pour un moment en juin 1940, on vit combien peut être hideux le spectacle d'un peuple qui n'est tenu à rien par aucune fidélité. Voilà. Et cette fidélité a manqué. Et quand on parle de l'identité nationale pour la ramener à Pétain, c'est tout à fait étrange, parce que ce qui caractérisait l'esprit de l'époque, l'esprit de la collaboration, c'était d'abord l'historicisme. On fait confiance à l'histoire au devenir, et l'histoire nous apprend que c'en est fini. Et c'en est fini de quoi ? C'en est fini justement d'une vieille idée de la nation. Il y avait un européisme farouche à cette époque. Devenons européens, intégrons-nous à une entité plus vaste. Ce qui d'ailleurs conduisait Sartre en 46-47, je crois que c'était dans « Qu'est-ce que la littérature ?», à dire que le mot « Europe » portait en lui un relent de germanisme et de servitude à cette époque. Oui, et Raymond Aron, dans ses chroniques de guerre, dit que l'enjeu, justement, de la guerre, il écrit en 42, c'est nation libre ou empire tyrannique. Nation libre au pluriel. Donc, il faudrait, si on veut être vraiment fidèle au devoir de mémoire, comprendre que celui qui défendait l'identité nationale, c'était De Gaulle. Et celui qui l'abandonnait, c'était Pétain. Quant aux collaborateurs, ils voulaient presque se défaire même de la nation pour quelque chose de plus vaste. Donc, et on peut se dire que un monde divers, un monde pluriel, a besoin de ces diverses, de cette multiplicité de nations pour vivre, de l'émulation que cela peut provoquer. Parce que vous dites la singularité, oui, plutôt que l'identité, mais faute de nation, on peut tomber dans l'uniformité. Quand Jean-Luc Mélenchon fait l'éloge de la créolisation, il dit « Regardez, on est déjà créolisé parce que toutes les enseignes sont en anglais, on mange tous la même cuisine. » Donc, la créolisation, c'est le même et le même. Vous voyez, c'est aussi un des enjeux, un des problèmes de l'époque. Il y a d'un côté les somewhere qui sont de quelque part, comme dit David Goodhart, et d'autre côté les anywhere qui sont de partout. Mais les anywhere qui sont de partout, ils créent aussi un monde terriblement uniforme. Donc voilà, voilà pourquoi il faut peut-être montrer un peu plus de tendresse à l'égard de l'identité nationale que vous ne le faites, Paul Audy.
Mais écoutez, vraiment, si vous ne voyez pas la tendresse que j'ai pour
la France, en tout cas, ça la voit.
Bon. Alors, non, c'est-à-dire que le problème de la territorialisation est un problème très compliqué. Parce que dans le mot territorialisation, il y a le mot terre, vous voyez. Et ça, ça ouvre sur des complexités qui peuvent être véritablement mortifères. Je pense que si vous voulez, quand on dit que la France n'était pas à Vichy et qu'elle était à Londres, on dit quelque chose de cette absence de territorialisation, si vous voulez. Il y a quelque chose qui se dit là quand on dit qu'elle est à Londres et pas à Vichy. Bon, ça veut dire quoi au fond qu'elle est à Londres ? Ça veut dire qu'elle est là où la liberté se défend. C'est là qu'elle est. Bon, alors l'identité nationale, si c'est pour la rattacher à ce concept-là, oui, 100 fois oui. Si c'est pour la rattacher à quelque chose qui est une sorte de représentation, représentation de quelque chose où les racines sont plantées dans la terre plutôt que dans le ciel, ça me gêne. Alors pourquoi ça me gêne ? Parce que comme je le dis dans le livre, je suis né moi-même déraciné. Je suis né déraciné. Je n'ai pas de racines libanaises. Je n'en ai pas. J'ai pas de mémoire libanaise. Je n'ai pas de sensation libanaise. Je n'ai pas de langue libanaise. Donc, si vous voulez, ce déracinement chez moi originel me met peut-être dans une position de vigilance par rapport à tout ce que on peut placer sous le terme de racine. Et voilà pourquoi, dans ce livre, j'ai cité ce passage de Simone Veil, où en fait, il s'agit de rendre hommage à un patriotisme face à la vulnérabilité de quelque chose qui nous est essentiel, plutôt que de s'enorgueillir de quelque chose qui est solide, glorieux et plutôt écrasant.
Oui. Je vais d'abord vous citer André Suarez en 1939, où l'on tient à la nation et le sentiment national exige qu'on se défende, où l'on ne tient ni au sol natal, ni à la langue, ni à l'œuvre d'un siècle, ni à tant de beauté, de vertu et de création originale qu'on ose alors le dire, et que l'on consente à livrer la nation aux ennemis qui veulent la détruire. Voilà pour lui l'enjeu de 1939. Mais c'est intéressant aussi de parler justement des racines. Moi-même, je suis naturalisé, Paul Audy, ouais. Mais je suis né en France, mais ouais. J'ai bénéficié avec mes parents d'une naturalisation collective. Ouais. J'avais un an, on m'a pas demandé mon avis, mais je suis très content. Et je me souviens d'une conversation que j'ai eue à la télévision avec Manuel Valls et David Pujadas. Nous étions invités tous les deux, Manuel Valls était ministre. Et à un moment donné, Manuel Valls, regardez ce que c'est beau la France. Aucun d'entre nous n'est d'origine française. Et en effet... Et je dis, oui, vous avez raison, monsieur le ministre, mais n'oublions pas quand même les Français de souche. Mmh. Ils existent.
Bien sûr.
Que n'avais-je pas dit là ?
Ah oui ?
J'ai pris une volée de bois vert. Français de souche, des vrais Français de souche d'ailleurs, se sont indignés, se sont étranglés. Et souvenez-vous d'une autre émission de télévision. C'était « Ce soir ou jamais ». Il y avait Ouria Boutelja qui était alors porte-parole des indigènes de la République. Elle a parlé des souchiens, les Français de souche, les souchiens. personne sur le plateau n'a réagi.
En un mot, j'espère.
Bah oui, mais enfin, on entendait les deux. On l'entendait en deux mots.
Bien entendu.
Et personne sur le plateau n'a réagi. C'est quand même la situation où nous nous trouvons. Alors peut-être que c'est pas la libanisation, etc. Mais c'est quand même une actualité tout à fait singulière, où on ne peut même plus dire qu'il existe des Français de souche, et quand on l'est, on a plutôt intérêt à la fermer. Donc c'est... Que pensez-vous d'une situation comme celle-là ?
Alors je vais vous répondre en reprenant le mot que vous avez vous-même prononcé à votre sujet. Vous êtes naturalisé. Alors c'est intéressant, parce que c'est un mot, si vous voulez, que l'on interroge assez peu. Le problème, c'est que le naturalisé vit sa naturalisation, dans le meilleur des cas, évidemment, à travers un sentiment d'endettement. Ce que j'appelle le syndrome du naturalisé, c'est ce sentiment de dette.
Ça, tout à fait juste.
Et cette dette, si vous voulez, conditionne absolument tout. Son rapport au monde, son rapport à la culture, son rapport à la langue, son rapport aux sensations, à la sensibilité, même en quelque sorte ses préférences culinaires. Ça va jusque là. Ce sentiment de dette est quelque chose qui vous traverse de part en part et avec lequel il faut faire. Alors pendant très longtemps, on pense que la dette peut être acquittée. C'est un leurre. Elle n'est jamais acquittée parce qu'elle n'est pas acquittable. Ce n'est pas possible. En revanche, il faut la reconnaître. La reconnaissance de dette, c'est précisément tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire reconnaître que il y a des Français qui étaient là avant vous, que ces Français ont constitué une histoire qui vous oblige et que cette langue vous a été transmise et que la moindre des choses serait de la respecter, je dirais, à la lettre. À la lettre. Parce que c'est en respectant la langue à la lettre qu'on peut la transformer et la réinventer.
Mais bon. Ça, c'est vrai pour le naturalisé, mais ce sentiment de dette devrait aussi toucher le français d'origine française, puisqu'on ne dit plus de souche.
Alors, je pense avoir été quand même l'axe de l'éducation laïque française, c'était précisément dans les écoles de susciter un sentiment de dette, même si précisément ils étaient nés français et qu'ils n'avaient pas à être endettés. C'est-à-dire, c'était une création tout à fait singulière qui modifiait en fait la réalité pour en quelque sorte la rendre encore plus possible. Aujourd'hui, je ne pense pas que les écoles insufflent un sentiment de dette vis-à-vis de quiconque par rapport à l'histoire qui est la sienne. Bon, mais c'est en ce sens-là que mon livre, si vous voulez, j'ai à la fois souffert de l'écrire et j'ai aussi pris un certain plaisir à l'écrire pour une raison qui est celle d'expliquer que le paradigme du naturalisé, lorsqu'il est vécu comme il devrait être vécu, peut être un modèle pour s'approprier sa propre culture et son propre territoire.
Ça, je souscris tout à fait à ce que vous venez de dire, Paul Audy, mais justement, nous vivons une époque assez étrange où règne, en guise de liberté, une sorte de fantasme de l'auto-engendrement. L'homme voudrait être son propre créateur. On le voit à la place prise par le trans comme figure, si vous voulez, de l'avant-garde historique. Le devenir, c'est presque le devenir trans de l'humanité, c'est-à-dire la possibilité pour l'humanité de tout choisir, de résilier le donné, et je suis homme, je suis femme, je suis non-binaire, à mon gré. Et donc, face à cela, ne faut-il pas rappeler l'humanité à un peu de modestie ? L'identité, c'est aussi cela, c'est cette part de moi qui n'est pas moi, mais qui fait qu'un véritable moi peut advenir. Et l'immodestie, dans laquelle nous sommes entraînés, n'est-elle pas très dangereuse, Polody ?
Elle est extrêmement dangereuse et je vous rejoins parfaitement sur ce point. Je pense que c'est même plus qu'une histoire d'orgueil, si vous voulez, ou d'auto-engendrement. C'est la disparition complète de la valeur de l'hétéronomie.
Exactement. L'hétéronomie, c'est la loi qui vient de.
C'est la loi qui vient de. Oui.
Qui vient de l'autre, quoi.
De l'autre.
De la transcendance.
De l'extériorité. On a même, en quelque sorte, déformé l'autonomie, qui est un concept très important, qui est un concept majeur pour penser la démocratie, par exemple. On l'a déformé parce que on a cherché à opposer l'autonomie à l'hétéronomie. L'hétéronomie, c'est fondamental, et c'est en ce sens-là que j'ai réservé le dernier chapitre de mon livre à cette curieuse identité qui est une identité sans lettres, qui est l'identité juive. La judéité a ceci de particulier, qu'elle est entièrement placée sous le sceau de l'hétéronomie, mais au nom de quelque chose qui n'a pas encore, qui n'est pas encore advenu. C'est ça qui est important. Le passé à partir duquel l'identité vient aux Juifs est un passé lui-même immémorial. Il rencontre quelque chose qui, en quelque sorte, est la simple profondeur du temps. Mais cette profondeur du temps nous renvoie aussi à un avenir qui n'est pas encore advenu.
Alors, oui, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le passage consacré à l'identité juive, Polody. J'ai pensé, en vous lisant, à ce qu'écrivait Emil Fackenheim, parlant de la voie prescriptive d'Auschwitz. Il dit, après ce qui s'est passé, la volonté d'Hitler d'éliminer les juifs de la surface de la Terre, le juif devait rester juif. C'était pas possible autrement. Et cette voie prescriptive, je l'entends. Donc, il y a une exigence de fidélité. La question, c'est de savoir quel contenu lui donner. C'est facile à un juif observant, c'est plus difficile à un juif non observant. Mais ce que vous écrivez sur le sujet est très éclairant. Pour finir, je voudrais en revenir à Londres.
Oui.
À Londres. Mais Londres, aujourd'hui, l'Angleterre pleure sa reine. Ça m'a fait penser à une réflexion magnifique d'Ortega y Gasset dans La révolte des masses, où il dit que la monarchie exerce une fonction très importante en Angleterre. Elle n'est pas matérielle et tangible. Elle a la fonction de symboliser, notamment à travers le rite du couronnement. Il dit « L'Anglais tient à nous faire constater que son passé, précisément parce qu'il s'est passé, parce qu'il lui est arrivé à lui, continue d'exister pour lui. Ce peuple circule dans tout son temps. Il est véritablement seigneur de ses siècles, dont il conserve l'active possession. » N'est-ce pas important pour un peuple de pouvoir circuler dans tout son temps ? Polody.
Je crois que c'est vital. Je crois que c'est simplement vital. S'il ne le fait pas, il est perdu. Il est perdu. Sa seule boussole sert à la circulation à l'intérieur de ce temps qui grandit, qui se resserre. Enfin, il y a une expansion et un resserrement du temps historique pour tout peuple en fonction de ce qui arrive au présent. Ce qui est intéressant de constater aujourd'hui, puisque nous le constatons depuis hier, c'est que ce qui me touche énormément dans la ferveur des Britanniques et dans leur deuil, c'est de reconnaître la capacité d'incarnation de la reine. Elle a incarné quelque chose pour eux. Mais elle a incarné quoi, au fond ? Elle a incarné un concentré tout à fait énigmatique et magique de leur affiliation sensible à eux-mêmes. comment eux-mêmes se rapportent à eux-mêmes à travers le vêtement, à travers la parole, à travers le débit de la parole, à travers la prestance, à travers l'humour, à travers la gravité, à travers le sens des responsabilités. Tout cela, pour chacune de ces catégories, nous pouvons dire que nous l'utilisons pour nous rapporter à nous-mêmes. Et il se trouve qu'il y a des êtres qui, en fonction de leur statut, peuvent concentrer, incarner tout ce qui nous permet de nous rattacher à nous-mêmes. Tout ce qui nous permet de nous appartenir, en quelque sorte. Et c'est ça, aujourd'hui, la reine, c'est ça le deuil. Et dans le deuil, il y a aussi une inquiétude. Allons-nous perdre ce vecteur d'appartenance qui nous a été montré par cette incarnation pendant 70 ans? Donc il y a à la fois une reconnaissance, une sorte de remerciement, et puis en même temps, il y a quelque chose qui fait flamboyer l'avenir. Est-ce que nous serons encore dans notre propre lumière, ou bien est-ce que nous ne nous reconnaîtrons plus bientôt?
Voilà, ça c'est une question qui a une portée tout à fait générale. Merci beaucoup, Paul Audy.
Merci
à Alors,
vous.
Je rappelle le titre de votre livre, Troublante identité, qui est publié aux éditions Stock. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « L'antisémitisme en France ». Mes invités seront Georges Bensoussan et Laurent Joly. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui, Geoffrey Marianne. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.